Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Bienvenue en Europe. Et aujourd'hui, pour cette émission, eh bien, nous avons la chance de retrouver Michel Bourges-Monory, que vous connaissez bien, mais aussi M. Patrick Hoguet, qui est président du mouvement européen d'Eure-et-Loire et qui est aujourd'hui là pour nous parler d'une initiative tout à fait intéressante en direction des apprentis. Monsieur Hoguet, bonjour, merci d'être à Radio Rancière. Et tout de suite, eh bien, à vous la parole pour nous expliquer justement les enjeux de cet Erasmus professionnel.
Eh bien, bonjour, merci de m'écouter pendant quelques instants pour vous parler d'une initiative que le mouvement européen d'Eure-et-Loire a souhaité prendre pour permettre de mieux connaître dans notre département un des dispositifs que l'Europe a mis en place initialement pour les étudiants et qui a bien marché pour les étudiants.
Qui marche toujours bien.
Qui marche toujours bien, qui marche aussi bien pour les lycéens, des établissements professionnels ou autres. Mais c'est un dispositif qui a été plus récemment proposé également aux apprentis. Et jusqu'à présent, les réponses qui ont été données à la mise en œuvre de ce dispositif ont été relativement limitées. Alors, Jean Arthuis, qui est ancien ministre de l'Industrie en France et qui maintenant est président de la Commission des budgets du Parlement européen, donc c'est quelqu'un qui compte effectivement sur le plan du Parlement européen, eh bien, a été chargé par la ministre du Travail, Madame Pénicaud, de faire un rapport qui avait précisément pour objet de d'analyser les difficultés qui peuvent se rencontrer pour la mise en œuvre de ce dispositif pour les apprentis. Alors, difficulté parce que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail. Il n'y a pas toujours le correspondant dans les pays d'accueil des jeunes apprentis qui iraient en Allemagne, en Angleterre, en Italie ou ailleurs. Il n'y a pas d'équivalence au niveau de la formation professionnelle. Il faut aussi réfléchir à la façon de prendre en compte les formations professionnelles acquises dans les pays d'accueil. Et donc, sur tous ces points-là, il est nécessaire, effectivement, que notre législation nationale et que, sans doute, les législations européennes évoluent, et notamment dans le sens d'une harmonisation des législations européennes. C'est une des propositions que fait Jean Arthuis.
Harmoniser ou reconnaître ce qu'on fait chacun réciproquement.
Voilà, exactement, de façon à ce que l'échange qui se fait relativement facilement entre les universités ou entre les lycées puisse également se faire entre, effectivement, les centres d'apprentissage. Alors je crois que c'est un point important parce que l'idée de la Commission européenne dans ce programme, qui a une trentaine d'années pour les étudiants et qui marche très bien, puisque en France, on a à peu près pas loin de 50 000 étudiants l'année dernière qui sont allés dans un pays voisin pour compléter leur formation. Eh bien, pour ce qui concerne les apprentis, nous avons eu 6 000 apprentis qui sont allés dans ces pays voisins. Et l'objectif, ce serait au moins de pouvoir doubler dans les années qui viennent la mise en œuvre de ce dispositif. Et c'est important pourquoi ? Parce qu'il faut que, effectivement, l'apprentissage soit valorisé dans notre pays. C'est un objectif qui est recherché par beaucoup d'acteurs de notre pays. Mais il faut aussi démontrer à ces apprentis que l'ouverture vers l'Europe leur donnera quelque chose de supplémentaire, leur donnera effectivement une approche plus complète sur le plan professionnel, mais également sur les échanges qui peuvent se produire entre les différents pays de l'Union européenne.
Est-ce qu'il n'y a pas à lever aussi l'obstacle linguistique ? Parce que finalement, souvent dans l'apprentissage, on n'apprend pas des langues étrangères. Et là, il y a cet obstacle, l'obstacle linguistique, et je vois aussi l'obstacle financier.
Alors, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est, ça fait partie des difficultés rencontrées. Bon, il y a des problèmes administratifs, mais qui vont devoir effectivement être affrontés. Il y a le problème financier, car en effet, les contrats qui sont des contrats de travail en France ne sont pas toujours, non pas leur équivalent dans tous les pays européens. Et donc, qui va prendre en charge le salaire de l'apprenti ? Qui va prendre en charge sa protection sociale ? Donc, ce sont les éléments que Jean Arthuis a étudiés et pour lesquels il fait des propositions. Et bien entendu, le problème linguistique est posé, mais il est posé aussi pour les étudiants, mais qui ont peut-être plus de formation en matière de linguistique. Il va falloir effectivement qu'on facilite la possibilité pour ces jeunes d'accéder à une formation linguistique adaptée à leur projet d'échange.
Et donc ce sera le 25 mai.
Donc, alors oui, concrètement,
sur table ronde ici en effet, au plan de l'Eure-et-Loire.
Voilà, alors en Eure-et-Loire, donc, cette table ronde autour de Jean Arthuis a lieu d'abord au centre de formation des apprentis interprofessionnels d'Eure-et-Loire. Donc c'est vraiment le creuset dans lequel peut effectivement trouver les différents acteurs qui pourront mettre en œuvre ce programme Erasmus Pro. Et ça aura lieu donc le 25 mai prochain, le vendredi 25 mai prochain, de 15h à 17h, au siège du centre professionnel interprofessionnel d'Eure-et-Loire. L'objectif, c'est que effectivement des témoignages peuvent être apportés pour ceux qui ont déjà profité de ce dispositif, pour savoir ce qu'ils en ont tiré, mais c'est aussi de faire l'analyse, très objectivement, des difficultés concrètes qui se posent aux opérateurs pour mettre en œuvre ce programme. Et l'idée, c'est que effectivement Jean Arthuis puisse nous dire où en est l'application de son rapport. Et vous savez qu'il va y avoir un débat d'ailleurs national sur la formation professionnelle et l'apprentissage au Parlement dans les semaines qui viennent. Mais je crois que c'est le moment, effectivement, de sensibiliser les différents responsables à la mise en œuvre de cette potentialité pour les apprentis, qui est une potentialité qui est précieuse dans la mesure où elle serait bien organisée.
Et au niveau de la participation, elle est ouverte à un certain nombre d'intervenants qui
témoignent de ce qui existe et de...
Tout à fait, oui. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir des témoignages pour les jeunes qui auront déjà participé à ce programme, qui est mis en œuvre depuis 2 ou 3 ans, mais qui, comme je le disais, il est de façon assez limitée dans notre département. Et puis c'est ensuite d'écouter les responsables des centres de formation de façon à ce qu'ils puissent exprimer auprès de Jean Arthuis les difficultés qu'il rencontre, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu mettre mieux en valeur ce programme, et d'écouter aussi alors effectivement les réponses que Jean Arthuis pourra leur donner dans les perspectives qui s'ouvrent pour arriver à augmenter très sensiblement la mise en œuvre de ce programme.
Oui, entre autres, quelle simplification administrative aussi. Parce que là, il y a pas mal de choses qui apparaissent dans les milieux professionnels comme étant des obstacles qui sont tout à fait en dehors du fait de l'apprentissage.
Absolument, absolument. Alors, d'une façon générale, les universités ou les lycées ont à peu près surmonté ces problèmes administratifs. Dans le cadre de l'apprentissage, ça n'est pas encore le cas. Et donc, effectivement, il y aura un représentant de la région qui a une responsabilité en matière d'apprentissage, comme vous le savez, importante. Il y aura un représentant de l'académie, de façon à ce qu'on puisse effectivement analyser la façon dont on pourrait rendre plus facile les dispositifs administratifs et un meilleur accès aux possibilités d'aide financière qui seront nécessaires pour compenser effectivement les charges qui s'attachent. Alors il y a une subvention européenne, bien entendu, mais il y a aussi possibilité pour les autorités nationales de donner un plus pour permettre de rencontrer certaines des difficultés qui peuvent se trouver sur le chemin de cet échange.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Auguet, d'être venu nous parler de cette table ronde qui, effectivement, si elle tient ses promesses, c'est quelque chose qui ouvre davantage l'Europe. Donc, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et puis, nous allons faire une pause avant de poursuivre.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame no pises mi blanco almidonado. Como canta la Zumaya, ay, como canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame no pises mi blanco almidonado. Niño, déjame no pises mi blanco almidonado.
Bien, toujours dans l'émission Bienvenue en Europe. Alors, quelle nouvelle finalement? Parce que les choses avancent. Au niveau politique, en Allemagne, on voit un peu plus clair. On sait que finalement, les pro-européens sont quand même là, présents. Mais c'est vrai aussi que l'alliance franco-allemande est regardée quelquefois avec méfiance par les partenaires européens. Donc,
oui, il y a eu dire. Là, pour ce, au stade où l'on en est de l'actualité européenne, bon, il y a des événements, et particulièrement le mois de mai et le mois de juin seront très riches en annonces. Il y a eu, comme vous venez de l'indiquer, un rapprochement, si l'on peut dire, entre la France et l'Allemagne suite à la mise en place du nouveau gouvernement de Mme Merkel, qui a pris quand même, rappelons-le, 6 mois, et qui, par rapport à l'agenda européen, a fait prendre du retard. Donc ce qui est convenu, suite notamment à des rencontres au niveau ministériel et au niveau de chef d'État et de gouvernement, rencontres notamment entre M. Macron et Mme Merkel le 19 avril dernier. Il est prévu un plan qui va être soumis au Conseil européen du mois de juin pour un certain nombre de propositions à mettre en place pour réformer, approfondir l'Europe. Alors il y a un certain nombre de dossiers qui effectivement ne sont pas faciles, car du point de vue allemand, la crainte qui est sous-jacente, c'est que toutes les réformes envisagées, notamment pour renforcer la zone euro, pour renforcer le budget européen, que tout cela se fasse au détriment du porte-monnaie allemand. Donc évidemment, dans un pays où tout a l'air de bien aller, on dit bah, pourquoi est-ce qu'il faudrait bouger et faire quelque chose ? Par ailleurs, il y a beaucoup d'autres pays qui sont
qui n'ont pas envie de pas perdre
très
du
envie
pouvoir,
de
finalement.
Perdre aussi. Donc il y a toute une série de freins qu'il faudra prendre en compte dans les propositions à venir. Donc on est dans un stade de préparation. Du côté français, là, il faut quand même le souligner, c'est quand même la France qui, pour une fois, depuis longtemps, et sur le devant de la scène, avec des propositions qui ont été officialisées à plusieurs reprises par son président, Emmanuel Macron, d'abord notamment avec le grand discours à la Sorbonne, mais également aussi en Grèce, pour rappeler le lien démocratique d'origine de l'Europe avec ce pays, et toute une série d'actions, et également dernièrement, confirmation en tout cas des grandes lignes de ces réformes envisagées devant le Parlement européen. Donc le président français s'est présenté devant le Parlement européen, a répondu à des questions. Et donc il y a une ambiance générale qui fait qu'on est dans un stade de préparation, mais il ne faut pas se leurrer, il va y avoir des difficultés d'analyse.
Alors, enfin, on avance. Et puis on avance aussi parce que finalement, D'un côté, il y a Poutine, de l'autre côté, il y a Trump, et on se rend compte qu'il faut que l'Europe marche pour qu'elle tienne debout et qu'elle marche sur ses deux jambes.
Donc
il faut vraiment qu'elle se prenne en main.
Il faut qu'elle se prenne en main. Il faut rappeler un certain nombre d'évidences qui, d'ailleurs, nous ramènent à un côté symbolique, parce que le mois de mai est aussi un mois de mai européen, qui rappelle un peu tout ce qui s'est passé dans le passé et qui est important. Rappelons quand même que le 9 mai, c'est la fête de l'Europe, qui a été officialisée d'ailleurs en 1986, à l'époque donc de la mise en place de Jacques Delors. Ça a été fait par le Parlement européen et en souvenir de la déclaration du ministre des Affaires étrangères français de l'époque, qui s'appelait Robert Schuman, et qui a fait une grande déclaration qui a mis en place le traité sur le charbon et l'acier, avec un accord évidemment de principe au départ, entre l'Allemagne et la France, et ce n'était pas du tout évident de mettre
ceci
en place.
Donc ça veut dire que là, des questions pratiques, et aujourd'hui, ce sont aussi autour des questions pratiques qu'il faut
avancer. Mais également aussi ce côté symbolique. Par exemple, le mois de mai est également l'anniversaire du 70e anniversaire, précisément, du Congrès de La Haye, qui, au lendemain de la guerre, en 1948, entre le 7 et le 11 mai 1948, a relancé l'idée de l'Europe en disant, après le conflit, dernier conflit mondial épouvantable,
fratricide,
c'était 3 ans seulement après la fin de la guerre, a réuni tous les Européens et notamment des résistants comme étaient Schuman, Adenauer, De Gasperi, etc. Donc il y a eu
Macron va prendre la suite.
Il y a ce symbole qui est là. Et maintenant, il faut que l'Europe se redresse et sur fond précisément aussi des consultations citoyennes. On en a touché un mot lors de notre dernière émission, Radio Grand Ciel, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir. Donc il y a la parole qui doit revenir aux citoyens pour précisément aider à renouveler l'idée européenne, la réformer là où elle doit l'être. Et donc il faut repartir de la base. Et justement pour la rapprocher des citoyens. Et cette conférence qui va se tenir ici à Chartres le 25 mai est précisément un exemple de concrétisation de ce que l'Europe peut et permet de faire au plan concret, très concret, de manière pratique et non plus s'en tenir à des grands discours lointains.
C'est ne pas, parce que quelquefois on me dit c'est une question de pédagogie. Moi je me dis c'est pas une question de pédagogie. Quand on fait de la pédagogie, ça veut dire qu'on veut mettre dans la tête de quelqu'un quelque chose que l'on a dans sa tête. Or, ce qui me paraît important, c'est que pour que les gens adhèrent à l'Europe, il faut qu'ils y voient un intérêt. Et là, je vois dans l'apprentissage, je me dis c'est tout à fait intéressant pour des apprentis de se dire je vais avoir une formation professionnelle, je vais avoir un bagage linguistique, je vais pouvoir circuler à travers l'Europe. Donc là, ça me paraît effectivement très important et ça part de la base, si j'ose dire, des gens eux-mêmes et non pas on va vous faire entrer dans un moule. Et c'est ça qui me paraît important.
Et c'est précisément en allant dans les pays qui nous sont voisins dans cette même unité européenne que l'on peut mieux prendre conscience de ce qu'est véritablement notre identité que l'on a en partage. Et donc c'est tout à fait important de faciliter ces échanges.
Eh bien, nous allons faire une seconde pause, et puis, avant de reprendre sur l'actualité et puis l'avenir.
Quand nous chanterons les temps de cerise, et les rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles seront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons les temps de cerise, sifflera bien mieux le merle moqueur. Und singen wir dann die Süßkirschenzeit, Frau Nachtigall weint, die Spottdrossel lacht, die Feier wird fröhlich sein. Die Schönen, sie werden so schön verdreht, den Liebenden steht der Sonnengott bei. So singen wir dann die Süßkirschenzeit, begleitet von Drosselschwörterei.
versäum nicht die Zeit, sie dauert bloß kurz.
Toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Bienvenue en Europe, eh bien, disons qu'un certain nombre de choses se poursuivent, les négociations se poursuivent. Alors, autour du Brexit, les négociations se poursuivent, autour des différents problèmes, notamment de la défense, eh bien, on peut regarder les pas concrets, précis qui se sont faits dans ce domaine. Là, l'Europe prend conscience qu'entre la Chine qui souhaiterait négocier avec chacun des pays européens, eh bien, il y a peut-être à retrouver le sens de l'Europe et à redonner de la place à Madame Mogherini, qui est la commissaire chargée des affaires étrangères de l'Europe. Parce que finalement, quand on voit Monsieur Macron rencontrer Monsieur Trump, lorsqu'on voit chacun des Européens rencontrer tel ou tel, est-ce qu'il n'y a pas un danger de perdre de vue l'unité européenne, alors que maintenant on a besoin plus que jamais d'unité?
Oui, on a besoin plus que jamais d'unité. Dans cette émission, on ne cesse de le souligner. Ce qui nous paraît évident au plan national quand il s'agit des intérêts du pays, cela va de soi. Et on a trop souvent le tort de ne pas prendre en compte
l'intérêt
européen qui est la prolongation directe de cet intérêt national. Parce que l'Europe qui a été mise en place précisément au lendemain de la dernière guerre, elle répondait à ses objectifs en prenant en considération que le continent européen était un tout et que face à la globalité du monde, notamment à l'époque, il y avait les deux blocs. Hein, il y avait le bloc soviétique, il y avait le bloc occidental. Bon, maintenant, il y a aussi la Chine, il y a des pays émergents, il y a l'Amérique du Sud, etc. Donc, le continent européen, en tant que tel, a une identité propre qui est différente et il doit prendre en compte ses intérêts.
Alors, il y a quelque chose de positif, pardon.
Oui, non, je vous en prie.
C'est en ce qui concerne le numérique, la législation européenne est vraiment la première. Et là, en France, on a entendu les médias dire « Bravo pour cette législation que propose l'Europe sur le numérique ». Et là, je crois qu'on a l'exemple de quelque chose qui est positif pour l'Europe, non ?
Tout à fait. Mais il y a des aspects pratiques. On parle aussi de la protection des données. Il y a sur la table toute une série de projets. Le numérique, c'est la grande question de l'expansion des intérêts européens qui est en jeu, parce que l'Europe a pris du retard dans cette dimension-là par rapport à d'autres zones, notamment les États-Unis et la Chine, il faut aussi le rappeler. Donc si on ne met pas le paquet en quelque sorte dans ce domaine, donc il y a un certain, eh bien, il faut essayer de rattraper le temps perdu et il faut surtout mettre en commun, alors que ce soit vous parler de la défense, c'est la même chose, que ce soit sur tous les sujets qui sont d'un intérêt vital pour chacun des pays, eh bien cela est un intérêt vital pour notre continent, donc il faut s'unifier. Alors évidemment, il y a, vous rappeliez aussi, les négociations du Brexit. Le Brexit, paradoxalement, va à contresens.
Oui, mais à renforcer l'unité des autres.
Mais
alors
il renforce,
c'est pas mal.
Exactement. Donc là, vous soulignez le côté à un mal, il peut y avoir un bien, nous l'espérons. Mais sur le plan budgétaire, bien, cela signifie qu'il va falloir compenser le départ, le retrait du Royaume-Uni. Mais tout ceci fait partie d'un tout. Et je crois qu'il faut toujours, on en revient au symbole, mais il y avait, et on parlait des échanges entre les jeunes, comment connaître nos pays voisins pour mieux prendre en considération que nous sommes vraiment tous dans ce même continent, des Européens. Après notre nationalité, c'est une souveraineté qui est partagée, qui s'ajoute, qui ne retire en rien à la souveraineté nationale, mais qui s'ajoute à la souveraineté habituelle. Donc, quand il y a le discours qui est de dire « mais l'Europe va nous faire perdre quelque chose », non. On a cessé de le rappeler, l'Europe n'est pas le problème en soi, c'est au contraire la solution. Mais à nous d'œuvrer pour que précisément cette solution puisse être mise en pratique. Et pour cela, il faut évidemment prendre conscience des intérêts de tout ce qui est en jeu. Donc on va revenir certainement à travers les consultations citoyennes à l'une ou l'autre occasion, qui sont libres et ouvertes avec tous les, dans tous les pays, les 20, en tout cas 27 pays actuellement, 26, pardon, parce qu'il n'y a pas la Hongrie encore, moins le Royaume-Uni, donc ça fait 26. Il y a ces débats citoyens qui vont se tenir. Au niveau français, c'est le mouvement européen, en particulier national, qui est l'un des grands partenaires pour essayer de faciliter ces débats, mais il s'agit d'un débat non partisan. Donc, c'est-à-dire que toutes les opinions doivent pouvoir s'exprimer pour que les citoyens, même ceux, et à commencer par ceux-là, qui sont contre l'Europe en quelque sorte, pour qu'ils comprennent les enjeux et qu'ils disent comment eux ils verraient les choses. Parce peut-être... que si c'est toujours le même discours de dire oui, l'Europe, 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 on a entendu dans le passé.
Sauter fameuse, comme un cabri voilà. Quand on parle de l'Europe. Mais, donc mais, ne sautons mais, pas comme des cabris, mais.
Il faut donner
les
la
choses.
Parole aux citoyens et pour que précisément on puisse avancer et véritablement prendre conscience de tous ces enjeux.
En tout cas, alors, pour finir, il y a quelques rencontres. Donc, on a évoqué cette rencontre concernant l'apprentissage et notamment l'extension du système Erasmus aux branches professionnelles. Mais il y a aussi le vendredi 25 mai à 17h30, au Boulet-Thierry, à la Maison des Associations, une réunion d'échange et de découverte qui est organisée par les Amis du patrimoine du Boulet-Thierry. L'idée, c'est comment intégrer l'effet Brexit, cerner les enjeux, évaluer les risques et relever les défis. Et les défis, eh bien, nous en avons parlé dans cette émission, comment parler d'une seule voix pour défendre les intérêts européens qui sont aussi les intérêts de chacun des citoyens.
Je voudrais, si vous le permettez, juste une seconde, citer juste une parole de Victor Hugo, alors, qui a été prononcée en 1849. Et elle est prémonitoire parce qu'il avait une vision des États-Unis d'Europe, et je crois que dans le contexte actuel, c'est pas mal. Je vous la cite juste, en finale. « Un jour viendra où, vous, toute nation du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. »
Voilà, merci Victor Hugo, bonjour l'Europe et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous, au revoir. Oh.